franceinter.fr.
Bonjour et bonne année à tous. Quand un passager prend l'avion aujourd'hui en France, une fois sur quatre, il voyage avec une compagnie low cost. Apparue dans les années 70 aux États-Unis, le modèle low cost est arrivé en Europe un peu plus tard, à la faveur de l'ouverture à la concurrence du ciel européen dans les années 90. D'abord regardé avec méfiance sur les questions de sécurité et de respect des règles sociales, le modèle a évolué et tend aujourd'hui à s'imposer au moins sur les distances court-moyen-courrier. Les compagnies traditionnelles sont obligées de s'adapter. Tout ne va pas sans mal. Le développement de la filiale low-cost d'Air France, Transavia, a donné lieu récemment à une longue grève des pilotes de la compagnie. Et ces derniers jours, les personnels navigants commerciaux d'EasyJet ont fait grève eux aussi, notamment pour de meilleures conditions de travail. Low-cost ne rime pourtant pas forcément avec moins disant social. Aux États-Unis, la plus ancienne compagnie de ce genre, Southwest, est considérée comme bienveillante pour ses salariés. Avec ses prix attractifs, le low-cost s'assure en tout cas de vrais succès et bouleverse le secteur. Nous allons voir ce matin quelle est la stratégie de ces compagnies et quelles réponses essayent d'apporter les compagnies traditionnelles. En France, la britannique EasyJet occupe désormais la deuxième place parmi les transporteurs. Et c'est sur cette compagnie que Frédéric Beignada a embarqué vers Genève avec l'économiste Emmanuel Combes. Voici son reportage « Low-cost, la révolution du transport aérien ».
Interception, le magazine de la rédaction.
On est à Orly Sud, on est quasiment sur un terminal presque dédié au low cost, puisqu'on a sur ce tableau d'affichage de départ essentiellement du EasyJet, du Transavia et puis Aiglazur qui n'est pas une compagnie
c'est intéressant low cost. C'est intéressant parce qu'on a sur ce tableau au fond la lutte entre l'outsider, EasyJet, qui est quand même la deuxième compagnie aérienne aujourd'hui en France, et puis la filiale low cost d'Air France. Qui a fait la une de l'actualité il y a quelques mois. La guerre va se jouer en réalité entre ces deux-là, me semble-t-il, sur Orly.
On y va ?
On y va.
Donc là, on voit ça va très vite. On voit déjà les passagers débarquer du vol précédent. Et les passagers dans l'attente d'embarquer, donc il y a 25 minutes.
Voilà, c'est en effet un des secrets, vous avez raison, du low cost. C'est cette capacité, en fait, à faire des rotations extrêmement courtes, de l'ordre de 20-25 minutes, ce qui est assez performant.
Le EasyJet 390 à destination de Genève. Ce vol est à attribution de siège. Votre numéro de siège est disponible sur votre carte d'embarquement. Merci de bien vouloir y prêter attention. Merci de préparer vos passeports et cartes d'accès à bord pour un dernier contrôle en porte. Nous vous souhaitons un bon vol et vous remercions d'avoir choisi EasyJet.
Le modèle économique low cost a vu le jour il y a plus de 40 ans aux États-Unis avec la création de Southwest Airlines, riche idée discutée sur le coin d'un bar de San Antonio entre Rolling King, un entrepreneur texan, et son avocat Herb Keller, qui en deviendra le président. Pour réduire les coûts et proposer des billets deux fois moins chers que les compagnies traditionnelles, Southwest va égratigner le confort de ses clients. Les sièges sont serrés, les rotations sont rapides et à la place des repas, ce sont des cacahuètes que l'on distribue à bord. Longtemps limité aux seules régions du sud-ouest des États-Unis, Southwest va prendre son véritable envol en 1978 avec l'ouverture à la concurrence du ciel américain. Pierre Sparaco est l'ancien correspondant en France du magazine américain Aviation Week.
Une compagnie aérienne dont la zone d'action était limitée à un État américain, en l'occurrence la Californie, a eu l'idée de concurrencer, en fait, je dirais, la voiture, dans la mesure où il n'y avait pas de présence ferroviaire réelle, et a créé des services qui sont, je parle en terminologie d'aujourd'hui, des lignes court-courrier, notamment entre San Francisco et Los Angeles, à des tarifs extrêmement bas, en jouant à la fois sur les fréquences, sur l'absence de services à bord, sur des structures ultra légères. Par exemple, elle avait supprimé le billet. Il n'y avait pas de billet d'avion. On payait à l'époque principalement en cash parce que les cartes de crédit n'étaient pas encore omniprésentes. Et en fait, un reçu de caisse enregistreuse servait de billet. Donc, c'était complètement aberrant. On n'avait jamais vu ça. Southwest Airlines étant, je dirais, la maman de toutes les compagnies low-cost du monde entier qui n'avaient pas de précédent et qui étaient à opposer à la manière de faire des compagnies aériennes que nous appelons aujourd'hui traditionnelles, qui étaient, pour tout résumer en un mot, très embourgeoisées. Elles étaient toujours dans une logique de transport un petit peu élitiste et elles ne cherchaient pas vraiment à casser les prix. Et à ce moment-là, Southwest, à peine naissante, n'était pas du tout une gêne.
Aujourd'hui, Southwest est un géant mondial. Elle transporte 100 millions de passagers par an aux États-Unis, n'a jamais perdu d'argent et surtout a révolutionné notre façon de voyager en avion. En Europe, il y a 20 ans, en reprenant une petite compagnie de Dublin au bord de la faillite, le très médiatique Michael O'Leary n'a fait que copier les méthodes de Southwest Airlines. Et ce n'est pas la seule. Si Ryanair est devenue la première compagnie européenne en nombre de passagers transportés, la plus rentable, c'est EasyJet, dont le modèle hybride à mi-chemin entre le low-cost et celui des compagnies classiques inquiète davantage. Car contrairement à Ryanair, EasyJet ne se pose pas sur des plateformes secondaires, mais sur de grands aéroports internationaux.
EasyJet applique une politique stricte de bagages à main et une seule pièce de bagage est autorisée à bord de la cabine. Les passagers ayant plus d'une pièce de bagage sont invités à se présenter en porte d'embarquement afin que les pénalités inhérentes au bagage soient appliquées et que le bagage soit mis en soute.
Non, ce qu'on vient d'entendre, Emmanuel, donc ça veut dire en gros on a un petit bagage et le reste, si c'est plus gros, on paye.
Tout à fait, ça c'est un point fondamental du low cost, éviter qu'il y ait trop de bagages en soute et pour le coup rendre payant le fait que vous ayez un bagage. Alors on peut le lire de deux manières, on peut se dire d'un côté c'était mieux avant parce que tout était inclus, mais ça veut dire aussi que ceux qui n'avaient pas de bagages en soute payaient pour les autres. On peut le voir de manière beaucoup plus positive, qui consiste à dire au fond à chacun sa responsabilité. Si vous souhaitez un bagage supplémentaire, vous payez, mais si vous n'en souhaitez pas, vous ne payez pas. Je crois que ça c'est aussi un des principes fondamentaux du low cost, c'est cette relation donnant-donnant. Vous voulez plus, vous payez plus, vous voulez moins, vous payez moins.
Alors même chose, on a deux fils. Un speedy boarding et puis un embarquement traditionnel, speedy boarding.
Tout à fait, donc le speedy boarding, le principe étant que ceux qui ont payé peuvent rentrer les premiers dans l'avion. Alors c'est intéressant parce que pour le coup on voit typiquement que le low cost ne se contente pas de dépouiller un produit et de le remettre ensuite en option, il crée aussi, il invente. Le speedy boarding est bien une création des low cost. Et à nouveau c'est intéressant, on retrouve cette notion de responsabilité. Celui qui veut plus, en particulier l'homme d'affaires qui est pressé, qui veut rentrer le premier, payera plus, mais c'est au choix du client. Donc c'est vrai que par rapport au prix du billet, les options peuvent représenter une somme conséquente. Et bien entendu, c'est sur ces options, en particulier, que se fait la marge. Prenons l'exemple du speedy boarding. Qu'est-ce que cela coûte en réalité à la compagnie ? Relativement
rien.
Peu. Et par contre, c'est une marge relativement confortable du 90%. Par contre, ça ne fonctionne le speedy boarding que si vous limitez, bien entendu, le quota de personnes qui puissent bénéficier de cette option.
Merci.
Là, on est devant le comptoir d'embarquement d'EasyJet. On le voit, très peu de personnes finalement qui vont traiter cet avion. On en voit une, deux, trois.
Tout a été en réalité fait par le client lui-même en amont. Le checking, vous pouvez le faire vous-même, comme sur les autres compagnies d'ailleurs, sur Internet ou sur votre smartphone. Donc il y a bien cette idée aussi dans le low cost, mais qui est aujourd'hui, me semble-t-il, un standard dans l'aérien. Externalisons au maximum le travail des équipes en faisant faire par le client les opérations qui sont à faible valeur ajoutée. En réalité, le personnel est là pour les cas particuliers.
Franck Mérène, directeur de l'aéroport de Paris-Orly.
Que représente aujourd'hui le trafic des compagnies low-cost à Orly ?
Le trafic des compagnies low-cost à Orly a énormément progressé depuis quelques années. C'est là qu'on a la plus forte croissance.
Très forte croissance, ça veut dire quoi ?
Très forte croissance, c'est à la fois un nombre de destinations. Il y a une dizaine d'années, Orly avait un trafic européen assez limité, principalement sur la péninsule ibérique et l'Italie. Aujourd'hui, c'est 60 destinations sur l'Europe, essentiellement tirées par les low-cost.
Le trafic low-cost, c'est le salut d'Orly ?
Le trafic low-cost, c'est essentiellement le trafic européen qui s'est développé à Orly. Et la croissance, elle tourne autour de plus 8% par an. Donc c'est ce qui tire effectivement la croissance d'Orly, avec des avions qui sont bien remplis. Orly est limité en nombre d'avions, 250 000 créneaux maximum par an. Le nombre de passagers par avion en moyenne était à moins de 120 il y a quelques années. Cette année, on est à 127. Chaque année, c'est 3-4 passagers de plus par avion en moyenne sur tout Orly, tirés par ces compagnies qui remplissent en moyenne à 150 passagers par avion.
Ce sont des compagnies exigeantes ?
Elles nous demandent plus d'efforts dans l'aménagement des infrastructures et des process pour que ça aille vite. Et pour que ça aille vite, on cherche à optimiser. Est-ce qu'on peut gagner 3 minutes si on change tel parcours passager, tel meuble où vous enregistrez s'il est un peu décalé ? Si on peut enregistrer par la porte avant et par la porte arrière, on peut gagner encore quelques minutes. Donc c'est la recherche de chaque minute qui permet de gagner en efficacité.
Sur le court moyen courrier, on va prendre un Boeing 737 ou un Airbus A320. Pour EasyJet ou Vueling, il est traité en combien de temps ?
Pour EasyJet, Vueling ou Transavia, il est traité en gros en 30 minutes. Certaines sont déjà sur Orly en dessous de 30 minutes.
Et pour les autres, les compagnies major ?
Et des compagnies, des pratiques plus classiques, on est plutôt entre 45 minutes et 1 heure.
Je suis François Baquetta, directeur général d'EasyJet pour la France.
Le modèle économique d'EasyJet n'est pas un modèle typiquement low-cost comparé à Ryanair. On met souvent Ryanair, EasyJet dans le même panier. Vous, vous posez sur des plateformes principales, Orly, des grands aéroports, ce qui n'est pas le cas de Ryanair.
Effectivement, c'est un choix de positionnement. Il faut distinguer deux choses, en fait. Qu'est-ce que c'est le low-cost ? C'est une compagnie aérienne spécialisée dans le court courrier, point à point, sans correspondance. Après, nous avons fait le choix d'aller vers les plateformes principales. Mais vous savez, ceux qui ont démarré le modèle Southwest avaient d'abord démarré sur des aéroports secondaires parce qu'ils n'avaient pas accès aux créneaux dans les aéroports principaux. Mais ça aussi, ça a évolué aux États-Unis. Ça coûte plus cher, mais c'est aussi là où vous avez les meilleurs accès et vous maximisez le potentiel de développement, puisqu'il y a tous les accès, notamment de services publics, pour se rendre à l'aéroport. Alors que dans les aéroports secondaires, c'est problématique et c'est beaucoup plus loin des centres urbains.
Est-ce qu'aujourd'hui, le point à point, le court moyen courrier, ce que font les low-cost en Europe et dans le monde, et le long courrier, ce sont deux métiers différents ?
Oui, effectivement, le long courrier et le moyen courrier sont deux métiers différents. Et c'est ce choix de segmentation qui a créé de la valeur. De notre spécialisation dans le moyen courrier découle un certain nombre de gains de productivité qui permet d'offrir ce rapport qualité-prix aujourd'hui gagnant en Europe et ailleurs.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'à terme, les grandes majors européennes devront abandonner leur court moyen courrier pour laisser cette partie de l'activité au low cost ?
Alors ça, moi, je ne suis pas devin. Maintenant, si vous, je peux vous citer un des fondateurs d'EasyJet, qui est Ray Webster, qui disait « Demain, 100% du court courrier sera fait par des low cost ». Maintenant, ce qu'on voit sur les marchés mûrs, ce qu'on constate, c'est qu'il en faut pour tous les goûts. Et en général, c'est...
Les marchés mûrs, ce sont les États-Unis.
Les États-Unis, mais aussi en Europe, vous pouvez prendre la Grande-Bretagne ou l'Espagne, ce genre de marché. Où vous remarquez quoi ? Qu'il y a moitié compagnie traditionnelle, moitié low cost ou un petit peu plus. Demain, ça dépendra du choix du voyageur.
Bienvenue à bord de ce vol en direction de Genève. Le temps du vol sera de 50 minutes. Nous tenons à saluer tout particulièrement les détenteurs de la carte EasyJet Plus présents à bord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit durant le vol, n'hésitez pas à nous solliciter.
Attachez votre ceinture manuelle.
Tout à fait, c'est obligatoire. Je consulte la boutique bistrot ainsi que le duty free.
Alors à bord, tout est payant.
Oui, c'est le principe même du low cost, c'est si vous voulez plus, vous payez plus. Mais le premier sentiment que l'on a lorsque l'on regarde les options payantes à bord, hein, bon, pour l'essentiel c'est boissons, petite restauration et duty free, c'est la richesse. À la fois la richesse en termes de variété de produits. Il y a des menus, alors c'est des menus très basiques, hein, c'est boissons plus sandwich, mais ça a l'air d'être plutôt des choses de qualité. À des prix, somme toute, assez raisonnables. On est sur des sandwichs autour de 5-6 euros.
Et on a même du couscous.
On a même du couscous. Du couscous. On a de la marque, ça c'est assez intéressant. Des grandes marques.
Ouais, Starbucks fait le café.
Starbucks fait le café.
Après, sur la place, on a autant de place que sur Air France ou que sur n'importe quelle autre compagnie.
On a autant de place, ceci étant, on reste quand même sur du court moyen courrier, donc il ne faut pas s'attendre, en effet, à avoir trop de place. Alors, si on veut plus de place, ceci étant, on peut acheter de la place, notamment sur les sièges qui sont
devant.
Et alors, il faudrait le vérifier, mais je crois qu'on est sur des prix de l'ordre de 10 à 15 euros, et qui permet donc d'avoir un siège beaucoup plus large. Donc là aussi, on revoit une autre caractéristique du low cost. Si vous voulez vous éloigner du lot commun, c'est-à-dire le siège standard, alors vous payez en plus, libre à vous de le faire.
Tout ça, c'est ce que l'on appelle les revenus annexes.
Tout à fait.
Ça représente quoi pour une compagnie comme EasyJet ?
Alors c'est énorme. C'est énorme, les revenus annexes. Dans une compagnie traditionnelle, classique, major, on est sur des revenus annexes inférieurs à 10% du chiffre d'affaires. Pour une compagnie comme EasyJet, encore plus pour Ryanair, on est sur des revenus annexes qui sont de l'ordre de 20% du chiffre d'affaires.
Les portes de l'avion sont à présent fermées. Nous vous rappelons que vous pouvez utiliser vos appareils électroniques ainsi que vos téléphones portables uniquement si vous disposez d'un mode avion.
Messieurs, préparez-vous pour le décollage.
Les compagnies à bas coût représentent aujourd'hui entre 40 et 45% du marché intra-européen. Aux États-Unis, la part des compagnies à bas coût semble stagner dans les mêmes proportions, sauf que dans les faits, le modèle low-cost occupe la quasi-totalité des vols de point à point. Et pour une raison simple, les compagnies classiques ont entièrement adopté le modèle. En Europe, le tout low-cost sur le court-moyen courrier semble également inéluctable. Mais contrairement aux États-Unis, les grandes compagnies européennes, plombées par des coûts de fonctionnement et des lourdeurs sociales héritées du passé, sont incapables de gagner de l'argent sur les courtes distances. Air France a mis du temps avant de réagir, après avoir longtemps sous-estimé ou ignoré le phénomène low cost. Frédéric Gagé, président d'Air France.
D'abord, il y a 10-15 ans, Air France avait beaucoup à faire. Rappelez-vous, c'était la fusion avec KLM, qui a peut-être détourné pendant un instant Air France de la question des low cost, mais qui a quand même permis à l'ensemble du transport aérien européen de faire un pas en avant extrêmement important. Après ça, il y a eu la crise.
Aujourd'hui, vous avez l'impression de prendre le train en marche. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ?
Je ne crois pas qu'il soit trop tard, non. En 2007, il y avait déjà le souci de répondre aux besoins du marché, d'avoir des billets peu chers pour créer une nouvelle demande. Et ça a été l'objet du développement de Transavia en Hollande et du lancement de Transavia France, qui donc en 2007 a commencé à voler, notamment au départ d'Orly, et qui depuis a cru à un rythme assez rapide. Transavia Hollande plus Transavia France, un total d'une cinquantaine d'avions l'hiver et à peu près une soixantaine l'été, ce qui n'est pas parmi les plus grandes low cost, mais ce qui n'est pas parmi les dernières low cost.
Aujourd'hui, EasyJet est la compagnie la plus rentable d'Europe. Ça vous inspire quoi ?
Ça m'inspire que EasyJet n'est pas soumis à la même concurrence, c'est vrai, sur les aspects du long courrier. Il y a un niveau de compétition au niveau mondial sur les activités long courrier qui est extrême. Et ça, ce type de compétition, nos collègues low cost ne la connaissent pas. Et d'autre part, vous avez la question de la poursuite des restructurations dans certaines compagnies, ce qu'on appelle les legacy carrières, qui sont les compagnies un peu anciennes en Europe. Alors, c'est notamment le cas pour Air France. Hein. Vous savez, on a souvent dit que notre activité point à point, donc celle qui lie Paris notamment aux grandes villes de province ou l'activité qui relie les grandes villes de province entre elles, je pense par exemple à des liaisons entre Bordeaux et Lyon, cette activité, on l'a toujours dit de manière très transparente, chez Air France, était déficitaire. Bon. Donc, tout un plan d'action a été lancé depuis 2012 avec l'objectif de rendre cette activité profitable à horizon de 2017.
On a beaucoup parlé d'EasyJet, on va maintenant parler de Ryanair. Le fait que Michael O'Leary change complètement sa politique, se tourne lui aussi vers une clientèle d'affaires.
Non, mais je crois que toute compagnie a remettre en cause ce sur quoi elle a pu fonder dans le passé sa réussite ou ses échecs. Il y a effectivement un changement de modèle de Ryanair qui change également sa communication vis-à-vis du client. Ben nous aussi, on change. Hein. C'est pour ça que, notamment, on a travaillé récemment sur le développement de Transavia et qu'on a dit qu'il fallait poursuivre ce développement. On change également en termes de produits. Et je crois que c'est ça qui est important.
Le retard des low cost est probablement dû à différents facteurs. Sans doute le poids extrêmement important de la compagnie nationale Air France, qui elle-même a résulté de la fusion d'Air France, d'Air Inter et du TA. Donc un marché français extrêmement bien couvert par la compagnie nationale.
Antoine Puciot, PDG de Transavia France.
Mais aussi d'autres éléments. La montée en puissance des low cost en Europe s'est faite au même moment qu'en France, on investissait énormément sur le train à grande vitesse. Et pendant très longtemps, on a dit que la première compagnie low cost française, c'est le train à grande vitesse. Et il est vrai que les grandes liaisons intervilles d'importance moyenne ou supérieure en France, c'est faite à travers le TGV. Voilà, donc on s'est souvent réfugié derrière la force... le volume transporté par le TGV, et à l'époque, parce que ce n'est plus le cas aujourd'hui, par des tarifs qui paraissaient relativement abordables, pour dire que le low cost aurait plus de difficultés. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi besoin d'avoir des liaisons, pas seulement entre la capitale et quelques grandes villes en France, mais aussi entre la capitale et d'autres grandes villes en Europe, et puis entre différentes transversales, je dirais, entre des villes secondaires en France et en Europe, et que le transport aérien reste le meilleur moyen, finalement, le plus souple en tout cas, pour aller d'un point à un autre, le train ayant besoin d'infrastructures considérables pour se développer.
Pour différentes raisons, Transavia France a pris beaucoup de retard par rapport à des concurrents comme EasyJet, Vueling. Vous avez obtenu, à l'horizon 2016, d'exploiter 40 avions. Est-ce qu'on peut vraiment faire du low cost avec 40 avions ou c'est ridicule ?
Transavia était d'abord une compagnie qui s'adressait à une clientèle loisir. Et effectivement, le changement de rythme, le changement de modèle vers un vrai modèle low cost, il a fait l'objet de débats dans le groupe. Mais aujourd'hui, je crois qu'il a été clairement tranché. Il est récent. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de combler le retard. Bien sûr, nous n'avons que 14 avions en 2014 et nous visons les 40 avions. Non, clairement, ce n'est pas suffisant. Mais c'est un début, 40 avions en France, le même nombre aux Pays-Bas, c'est déjà 80. Et bien entendu, il faudra continuer à réfléchir à des développements ultérieurs, pas seulement en France et aux Pays-Bas, mais sur l'ensemble de l'Europe, pour que la marque Transavia ne soit pas simplement une marque franco-néerlandaise, mais une marque européenne connue, comprise, utilisée non seulement en France et aux Pays-Bas, mais dans d'autres pays européens.
Notre service bistro EasyJet, nous proposons un grand choix de boissons chaudes telles que le café, thé, chocolat chaud et soupe, également des boissons rafraîchissantes comme nos sodas, nos jus de fruits et bien d'autres encore. Vous trouverez donc tout le détail de ces produits dans le magazine de bord. N'hésitez pas à nous arrêter quand nous passerons en cabine. Merci.
Il y a beaucoup d'idées reçues sur le low cost. On pense vieux avions, on pense personnel mal payé. C'est vrai, c'est faux tout ça ?
Alors en effet, il y a beaucoup d'images d'Épinal sur le low cost. Si on commence par le matériel, les avions, l'image que l'on a parfois, ça consiste à dire le low cost, c'est pas compliqué, c'est des vieux avions achetés d'occasion. En réalité, c'est complètement faux. Ce sont des flottes ultra modernes. Pour vous donner une idée, la flotte d'EasyJet a en moyenne 4 à 5 ans. Ils renouvellent la flotte.
très souvent. Je crois d'ailleurs qu'EasyJet a passé la plus grosse commande d'Airbus Neo A320 il y a quelques mois, 135 appareils. Donc ils ont une capacité non seulement à avoir des avions récents, mais en plus à renouveler leur flotte et donc à être efficient en termes de fuel.
Et pour une raison, oui, toute simple, un vieil avion nécessite beaucoup plus d'entretien.
Bien sûr, et il y a un autre argument, c'est qu'ils peuvent se permettre de le faire parce que contrairement aussi à une image d'Épinal, les compagnies les plus rentables en Europe aujourd'hui, eh bien oui, ce sont EasyJet et Ryanair, avec des marges qui font vraiment envie. On est sur des marges à deux chiffres, à plus de 10%. Pour vous donner un point de comparaison, des marges à deux chiffres, c'est des marges que vous trouvez dans des industries qui ne sont pas l'aérien comme des industries du luxe. Donc ils ont les moyens d'investir, donc il y a une sorte de cercle vertueux. Ils gagnent de l'argent, ils peuvent donc racheter des avions en grande quantité, ce qui va leur permettre d'être efficients et à nouveau d'être rentables. En matière de conditions sociales, le débat est plus compliqué puisqu'on a une compagnie, vous le savez, irlandaise qui a pu notamment poser problème. La compagnie irlandaise fait l'objet de plusieurs procédures en justice. Attendons de voir ce que dira également la Commission européenne sur ce sujet avec les aides aéroportuaires. Mais à contrario, dire que le low cost se nourrit de l'exploitation des travailleurs, ça me semble être largement exagéré. Expliquer que le low cost marche parce que les pilotes sont mal payés, ça me semble être une erreur de raisonnement pour plusieurs points. Tout d'abord, vous avez un bel exemple aux États-Unis, c'est Southwest Airlines, plus grande compagnie au monde, qui est réputée comme être une compagnie dans laquelle il fait bon de travailler avec un faible taux de turnover. Donc on a une compagnie low cost qui a réussi finalement à concilier bien-être des salariés, salaire, rémunération et modèle low cost. Deuxièmement, cette idée qui consiste à dire qu'au fond le low cost, c'est d'abord des compressions de coûts du travail, c'est méconnaître la structure de coûts. Une compagnie du low cost exploite d'abord ses avions. Le secret du low cost, c'est d'abord de faire des tours rapides, c'est de faire voler les avions 11 à 12 heures par jour. Donc nous expliquer qu'en réalité, c'est sur le coût du travail que l'on fait la différence avec les compagnies majors, c'est en réalité relativement erroné.
On parlait des conditions de travail et des salaires des pilotes. C'est la même chose pour les PNC, les hôtesses et stewards.
Alors la situation est un peu différente pour les hôtesses et stewards, notamment sur un point, c'est les modes de rémunération. Puisque dans une compagnie low cost, telle qu'EasyJet, mais vous retrouvez ça également sur les autres, vous avez une part du salaire variable qui est beaucoup plus importante, notamment sur les ventes.
Donc on a intérêt à leur acheter un sandwich.
Tout à fait. Et eux ont intérêt surtout à ce que vous leur achetez un
sandwich. Donc c'est pour ça qu'ils vont nous le vendre avec le sourire.
Tout à fait. Ils vont nous le vendre avec le sourire. C'est pour les hôtesses et les stewards un moyen d'avoir des revenus complémentaires. Ce n'est pas négligeable. Sur un salaire de personnel navigant commercial, on peut être sur des gains de rémunération qui sortent de l'ordre de 20 à 30% par rapport au salaire de base.
Est-ce que vous voulez manger quelque chose?
Si vous me l'offrez, Frédéric, je vais bien.
Avec plaisir. Un cappuccino, un café, un jumeau.
Sucre et du lait. Un cappuccino, attention de ne pas vous brûler, c'est très chaud.
Combien je vous dois?
29 euros, s'il vous plaît.
Donc, je m'appelle Laetitia Oulaito, je suis déléguée syndicale, je travaille pour EasyJet. Je suis également vice-présidente de l'UNAC, qui est l'Union des navigants de l'aviation civile, le syndicat pour lequel je travaille, entre autres.
Laetitia, lorsque l'on est employé d'une compagnie low cost comme EasyJet, est-ce que les conditions de travail sont différentes?
Oui, les conditions sont différentes. Le nombre d'heures de vol par mois est plus important. Pour EasyJet, nous avons jusqu'à 80 heures de vol. D'accord. Par mois, voilà, et 160 heures de ce qu'on appelle le duty, à partir du moment où on fait l'enregistrement, le check-in, donc le briefing en salle d'équipage.
Entre le moment de présence et le moment où vous allez être effectivement dans l'avion.
Voilà.
Et sur les compagnies traditionnelles, la différence d'heures de travail est énorme.
Ils ont moins d'heures de travail, ils sont sans doute amenés à faire des découchés pour des vols européens, ce que nous ne faisons pas, donc on fait l'aller-retour. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la vie privée qui est impactée par une instabilité des plannings. Il est très difficile de planifier sa vie, même si on est PNC et qu'on sait que c'est lié au métier. Chez EasyJet, c'est très compliqué.
Parce que les plannings changent en permanence.
Ça change perpétuellement, c'est une horreur. Je peux rentrer de vol un jour et avoir des changements pour le lendemain, me retrouver avec une journée de 4 étapes au lieu de 2, ou un vol du soir au lieu du matin. Donc ça aussi, c'est un des désavantages et des choses détestables.
Ça fait des journées extrêmement longues, mais on n'est pas en dehors de la réglementation.
On n'est pas en dehors de la réglementation.
Mais vous êtes sous contrat français.
Nous sommes sous contrat français.
Donc avec des règles françaises, un cadre de travail français.
Oui, en revanche, nous dépendons quand même de Londres. Tout se décide à Londres. Même quand on négocie, je veux dire, les personnes qu'on a en face de nous n'ont pas la main réelle. Ils exécutent ce qu'on leur dit. Et donc, c'est la problématique de la conception du droit du travail anglo-saxon et français s'entrechoquent, puisque il y a une partie des choses qui sont respectées, d'autres pas. Par exemple, la compagnie ne paye pas certaines taxes sociales qui permettent d'avoir la formation professionnelle, donc le CIF, le DIF, la participation. Et nous n'avons pas non plus de prévoyance, nous n'avons pas de grille des salaires non plus. C'est-à-dire que actuellement, par exemple, je suis chef de cabine chez EasyJet, je n'ai pas beaucoup de perspectives d'évolution, il n'y a plus rien ensuite. Pas de possibilité d'évolution et là, il y a une différence de traitement avec par exemple les pilotes qui, eux, ont une prime d'ancienneté.
Les salaires d'une hôtesse chez EasyJet, c'est quoi ?
À peu près 1600 euros bruts et 2200 pour les chefs de cabine. Un chef de cabine qui a, par exemple, 10 ans d'ancienneté n'a pas du tout la même paye qu'un chef de cabine avec la même ancienneté chez Air France, par exemple. En ces temps de crise, ça reste une rémunération qui est très correcte. Même si on part parfois au travail à reculons, ça reste un travail qui est honorable. Voilà. Tout n'est pas mauvais, tout n'est pas noir chez EasyJet. En revanche, la compagnie méprise ses employés quand elle fait autant de bénéfices et qu'elle en sachant que nous, les employés qui nous occupons des passagers et qui occasionnons ce service clientèle dont les gens sont satisfaits, c'est mépriser ses employés que ne rien donner. Voilà. Et c'est pas impossible de faire du low cost et d'avoir des employés contents.
Merci de regagner vos sièges et de rester bien attachés. Les toilettes ne sont plus disponibles et nous ne servirons plus de boissons chaudes pendant toute la durée des turbulences. Ladies and gentlemen, we are going to turbulences. Please remain seated with your seatbelt fastened. Toilets are not available for the moment and no hot beverage will be there. Thank you.
Pour les compagnies traditionnelles, le défi est d'autant plus difficile à relever que les low-cost évoluent sans bourgeoise en multipliant les services. Pour augmenter leurs recettes, elles s'intéressent de plus en plus à une clientèle aisée, les hommes d'affaires. On voit actuellement une évolution du modèle d'EasyJet qui, de plus en plus, cherche à capter une clientèle d'affaires. D'ailleurs, votre clientèle d'affaires est en constante augmentation.
Oui, c'est normal, ça va avec la construction de notre réseau.
François Baqueta, directeur général d'EasyJet pour la France.
Comme nous sommes sur les plateformes principales, donc à Paris, c'est Orly, Charles de Gaulle. En France, c'est principalement les Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Nice, ce genre d'aéroports. Nous pouvons capter, y compris les voyageurs d'affaires. On a fait un pas vers eux, donc en secouant une des vaches sacrées du modèle, qui est la distribution directe. Parce que vous savez quand même, encore aujourd'hui, l'essentiel de nos clients passe par le site internet d'EasyJet. Mais il se trouve que les grandes entreprises ne passe pas par ce canal-là. Et donc, nous avons fait l'effort, j'allais dire, de tuyaux pour donner accès aux agences de voyage d'affaires à notre produit. Cette clientèle est en croissance.
Aujourd'hui, pour un homme d'affaires, il n'est plus tabou de voyager sur une compagnie low cost.
Ben absolument. Mais il y a aussi une raison qui date déjà un peu. C'est-à-dire que, vous savez, autrefois, dans les entreprises, le choix entre la classe éco, la classe affaires ou même la première classe était une affaire de statut pour les cadres. Mais ça fait déjà longtemps que les entreprises ont viré leur cutie et qui disent finalement c'est la distance qui compte. Un voyage en Europe, vous le faites en éco. Un voyage long, vous le faites en classe affaires. Donc en fait, on surfe aussi sur cette évolution des entreprises dans leur politique voyage.
Aujourd'hui, la clientèle d'affaires, elle représente quoi chez EasyJet en termes de pourcentage ?
Bon, écoutez, c'est, au niveau de la compagnie en Europe, c'est 1/5 de notre clientèle. En France, c'est 1/4. Parce qu'en France, nous sommes véritablement la seule alternative sur le court courrier à Air France.
Bonjour.
Bonjour, Patrick Malval, directeur général Europe de l'Ouest de British Airways.
Lorsqu'on est une grande major, est-ce que l'on peut faire du low cost ou c'est deux métiers complètement différents?
Alors, c'est deux métiers différents. Par contre, les majors, et c'est certainement le cas de British Airways, ont tout intérêt, et nous l'avons fait, de s'inspirer des recettes du low cost. Parce que si vous appliquez un certain nombre de recettes du low cost, notamment en matière de coûts d'utilisation d'avions, à l'activité plus traditionnelle des majors, qui principalement alimentent évidemment leur hub, vous avez de bien meilleurs résultats. Et c'est exactement ce que British Airways a fait. Nous avons optimisé l'utilisation de nos avions, nous avons optimisé l'utilisation de nos équipages. En fait, l'avènement low cost est la meilleure chose qui est arrivée à notre activité court et moyen courrier. Ça nous a mis un véritable coup de fouet, ça nous a obligés à nous remettre en question, à travailler sur nos coûts. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui, on est très satisfait avec les résultats que nous avons sur le court et moyen courrier.
Il est un peu décalé ce discours, on l'entend rarement.
Je ne sais pas s'il est décalé, mais je vous parle de la réalité de ce qui arrive dans l'entreprise British Airways. On n'a pas vocation à être une compagnie low cost, bien évidemment. D'abord parce qu'on n'a pas une marque low cost. On a une marque à 90 ans et qui est très connue pour sa qualité de service. Par contre, en appliquant des recettes du low cost, on a pu considérablement améliorer nos résultats sur le court et moyen courrier.
En même temps, lorsqu'il a fallu tout remettre à plat, le choix d'IAG, la maison mère de British Airways, a été de dire « on va racheter une low cost ».
Alors effectivement, IAG, c'est un groupe auquel British Airways appartient. Et IAG a fait le choix d'intégrer à l'intérieur du groupe, qui contient déjà British Airways et Iberia, une compagnie low cost qui s'appelle Vueling, qui est le troisième low cost européen. C'est une compagnie qui est certainement promis un très bel avenir, d'après les résultats que je peux lire dans la presse. Et en tout cas, qui a de véritables bonnes recettes pour développer son trafic et pour rentrer en concurrence effective avec d'autres compagnies low cost.
Ça vous a boosté?
Ça nous a donné une motivation à faire ce que nous avions à faire, oui.
Face aux compagnies low cost, les compagnies classiques n'ont aujourd'hui plus d'autre choix que de s'adapter ou confier cette mission de vol à bas prix à leurs filiales respectives. Transavia pour Air France KLM, Germanwings pour Lufthansa, Vueling pour British Airways et Iberia. Vueling, une start-up espagnole basée à Barcelone, mais qui finalement a pris le contre-pied du modèle low cost épuré.
Bonjour, je m'appelle Alex Cruz, je suis le président directeur général de Vueling.
Comment voyez-vous évoluer le modèle low cost? Aujourd'hui, les compagnies traditionnelles baissent énormément leurs coûts de production et les compagnies low cost ont tendance à les augmenter. Est-ce qu'il y aura un équilibre un jour et plus de compagnies low cost, un modèle médium?
Non. Et si nous miramos à 8 ans,
si nous regardons 8 ans, 15 ans, à un horizon de 10 à 15 ans,
está absolutamente claro,
il est absolument clair
claro que, el producto, el servicio que, va
que le modèle dentro de Europa, qui va s'imposer en Europe
corto radio,
sur les courts et moyens courriers
un servicio low cost.
Sera un modèle low cost.
No low cost fundamentalista, low
pas
cost,
forcément la version agressivo, fondamentaliste malo, et
no,
agressive low
cost,
du low cost.
Justo, bueno,
mais un low cost
rapido,
juste,
barato,
positif, rapide, bon marché, confortable,
puntos de fidélisation,
avec des programmes de fidélisation,
etc.
Une classe affaires, etc.
Un modelo nuevo,
mais c'est un modèle nouveau,
rapido,
très efficace, pragmatique flexible. Et flexible.
Si hay pasajeros, pongo muchos
s'il y a
aviones.
Des passagers,
si
no hay pasajeros, on met des avions.
En invierno, los
s'il pilotos, n'y a pas de passagers en hiver, on s'en va vers un autre site.
Et ce modèle efficiente,
ce modèle de low cost économique,
low cost es el
pragmatique, efficace, est le modèle
lo
d'avenir.
Hacer, Vueling, otras como
c'est
Vueling,
ce que feront Vueling ou d'autres
France,
compagnies
France,
comme Vueling,
etc., con sus vehicles,
et c'est ce que feront aussi
futuro,
British Airways, Air France, Lufthansa avec leurs avions.
Radio,
mais c'est l'unique modèle pour l'avenir, pour les courts moyens courriers, les vols intra-européens. Le
si
modèle
no,
doit être efficace.
Si no
s'il ne l'est pas,
muere,
il mourra.
Desaparecerá,
il disparaîtra,
no es competitivo,
car il n'est pas compétitif.
Y por eso es importante que
c'est pour ça qu'il est important que nous voyons des entreprises comme Lufthansa, Air France,
SAS à l'Italia,
SAS à l'Italia
las formulas, correctas,
qui cherchent la bonne formule pour avancer.
Que, bueno, están haciendo una labor interesante,
ce qu'elles font est intéressant.
Dans ce ciel européen où finalement il n'existe pas qu'un seul modèle économique low cost, la plus décriée d'entre elles est Ryanair. Non pas uniquement par les provocations répétées de son patron Michael O'Leary, mais par la polémique soulevée par les subventions qu'ont accordées certaines régions pour que vienne s'installer sur leur aéroport la compagnie irlandaise. Pierre Sparaco.
C'est une manière de faire bien rodée chez Ryanair, qui est probablement à bout de souffle, même si Ryanair le conteste, tout simplement parce que le raisonnement du point de vue de la compagnie aérienne avait un sens. Du point de vue de chambres de commerce, principalement, ou d'autorités régionales, il y avait des opportunités, mais seulement, il y a aussi des contraintes réglementaires, celles de la Commission européenne. Il est possible que cette manière de faire soit en fait condamnée à plus ou moins long terme. Maintenant, il faut voir dans la vraie vie ce que ça signifie. Quand on va voir l'aéroport de Charleroi, qui s'appelle Bruxelles Sud officiellement, c'est fort intéressant parce qu'on trouve une aérogare très grande, très moderne, de construction récente, des équipements au goût du jour, si j'ose dire. Or, cet aéroport était avant ça un aérodrome dont la raison d'être était qu'il y avait, ce qu'il y a d'ailleurs toujours sur place, une industrie aéronautique. Et donc, à partir du moment où on assemble des avions, notamment le chasseur américain F-16 qui était assemblé là, il fallait forcément une piste pour qu'il puisse partir. Et donc, au départ d'une piste au milieu d'une prairie, s'est bâti un véritable aéroport qui occupe beaucoup de monde, qui apporte à l'économie locale beaucoup de choses. Bien entendu, les régions sont prêtes à défendre bec et ongles un atout comme celui-là. On peut imaginer, sans avoir de boule de cristal, qu'à terme, Charleroi périclite, tout simplement parce que Ryanair en est l'utilisateur principal, pas le seul, mais principal, et que Ryanair va peut-être glisser imperceptiblement vers Bruxelles tout court, le vrai Bruxelles, où elle est installée avec succès pour le moment. Donc, c'est une manière de faire qui, vu que le recul, aura donné un bon coup de main aux compagnies low cost, principalement à Ryanair, beaucoup moins aux autres, mais qui est en train de s'étouffer et qui est probablement condamné.
Mesdames et messieurs, nous allons bientôt atterrir. Veuillez regagner votre siège et vous assurer que votre ceinture est attachée, votre siège et votre tablette redressée, vos accoudoirs abaissés et le cachet relevé. Assurez-vous que tous vos bagages à main sont rangés, vos ordinateurs portables...
Nous atterrissons. Déjà. En effet, en moins d'une heure, c'est comme si on avait fait un trajet dans une banlieue lointaine de Paris.
Donc le low-cost, vous dites, va gagner.
Oui. Il a déjà gagné. Pour vous donner une idée, il a 40 à 50% de parts de marché intra-Europe. Les estimations les plus fiables donnent une part de marché qui serait de l'ordre de 60% à l'horizon 2020. Par contre, je ne pense pas, en tout cas, qu'il y aura un seul type de low-cost. Il y aura toujours place pour un ultra-low-cost, Ryanair ou un autre, qui va cibler les clients jeunes, etc. Ça sera un modèle de niche. Et vous aurez le modèle dominant, qui est un modèle loisir-business, soit filiale de Major, soit pure player. Mais il me semble que les pure players ont quand même un temps d'avance sur les compagnies Major. N'oublions pas que les compagnies Major, ce n'est pas seulement le sujet d'Air France, c'est aussi le sujet de Lufthansa, qui est engagé dans un processus au fond similaire avec sa filiale low-cost, Germanwings, qui est d'ailleurs une compagnie low-cost qu'elle a rachetée et qu'elle essaye d'intégrer à son groupe.
Avant de nous quitter, prenez garde de rien oublier à bord.
Encore une fois, merci et très bon séjour ici, à Genève. Merci, bonsoir. Très
bonne soirée. Alors,
139,
141,
145, and I said Geneva 05 with the ILS to return.
Check it out.
Ok, le briefing. Ah, ils nous ont fait un peu réduire la vitesse parce qu'il y avait des avions devant et puis finalement on a pu faire un temps de vol correct et on est dans les. Tu vois, on est à une minute en avance sur le temps de bloc prévu, donc c'est parfait. On a des calculs de plan de vol qui nous disent si c'est plus intéressant pour nous de transporter le pétrole en le payant moins cher ou alors d'être plus léger pour le trajet et de le prendre à destination. Ça s'est bien passé. Donc maintenant je remplis le plan de vol aller. Donc je dois indiquer les temps et puis le pétrole final. On range. Et bah déjà, il faut déjà préparer l'avion pour le retour. Donc,
parce que ça va vite en fait, hein. On n'a pas le temps de se reposer. Combien de temps? 35 minutes?
Là, on a 30 minutes là, ça va aller très vite. Ouais. Donc 30 minutes, on est sur un 319, donc ça se fait bien. On n'a pas tous les passagers possibles, hein. On a une dizaine de passagers en moins, on a que 147 là. Donc ça va quand même aller vite. Donc tout de suite, je prépare l'ordinateur de performance sur les données du vol suivant. Dès que j'aurai préparé ça, ben, je vais aller faire le tour de l'avion. Et puis voilà, puis le commandant, lui, va préparer la machine avec le plan de vol. Donc on va le télécharger depuis Londres. Il va arriver dans la machine avec tous les vents, tous les derniers vents, ce qui va nous affiner le pétrole. Et puis c'est reparti.
Les compagnies aériennes dites traditionnelles, qui ont été très bousculées par cette évolution-là, ont fait des efforts de productivité absolument énormes, formidables. Et un exemple qui est connu depuis quelques jours, c'est tout récent, grâce à de nouvelles statistiques, on sait que les coûts de production de Delta Airlines, qui est un des grands, des géants du transport aérien américain, sont inférieurs à ceux de Southwest. C'est-à-dire que Delta, compagnie on ne peut plus traditionnel, est arrivé à raboter ses coûts, à supprimer tout ce qui n'était pas indispensable.
C'est énormément réformé, Delta, oui, comme toutes les grandes compagnies américaines.
Mais elle, peut-être un peu plus que d'autres, et donc elle arrive à avoir des coûts de production inférieurs à ceux de Southwest. Ce qui n'a pas l'air de gêner Southwest outre mesure, parce que Southwest continue d'aller bien, grâce notamment à une image de marque qui est formidable. Mais donc, il y a là une évolution qui conduit les spécialistes à s'interroger pour savoir si le modèle économique type Southwest et ses émules et le modèle des compagnies dites traditionnelles ne sont pas en train de se rejoindre en un seul modèle unique qui serait un peu le modèle économique idéal de grandes compagnies bien structurées mais extrêmement performantes. Delta est peut-être, sans le savoir, le prototype de cette formule-là.
À noter qu'après la grève des PNC d'EasyJet cette semaine, la direction de la compagnie a annoncé l'ouverture d'une négociation mercredi prochain. Low cost, la révolution du transport aérien, c'était un reportage de Frédéric Beignada, prise de son Patrice Klein. La réalisation était assurée cette semaine par Franck Aderer et le mixage par Lucas Vaillant. Dans quelques instants, le journal de 10h, on se retrouve dimanche prochain avec un reportage sur les traitements de la maladie d'Alzheimer. Peu efficace, voire dangereux, et pourtant maintenu sur le marché, prescrit et remboursé. Bonne semaine à tous.